So I'd be ready to take questions. We've had people submit questions already. J'appellerai peut-être Madame Sandra Etienne, qui a soumise deux questions. Madame Etienne est de l'APTS.
Alors, bonjour.
Bonjour, Madame Etienne.
En juin 2017, l'APTS a déposé une lettre dénonçant la situation des professionnels. Entre autres, nous avions mentionné dans cette lettre, alors que le monde du travail prône la gestion participative, la reconnaissance du travail effectué, la communication et la transparence, les professionnels ainsi que le syndicat sont étonnés de constater une gestion autoritaire, rigide, isolant les travailleurs au sein de leur groupe par la valorisation du silence. Le Centre universitaire de santé McGill a longtemps été un modèle dans le secteur de la santé. Les professionnels espéraient avoir la chance de poursuivre une carrière dans l'un des centres les plus innovateurs en Amérique du Nord, où la norme de pratique est l'excellence. Nous constatons aujourd'hui que les arrêts pour cause de maladie augmentent, la rétention et le recrutement des professionnels sont difficiles. 18 mois plus tard, nous sommes tristes de constater que la situation ne s'est pas améliorée. Donc, la question est, quelles sont les mesures que le CUSM compte prendre afin de contrer la surcharge de travail, l'épuisement des professionnels du CUSM et le climat de travail? Et à ça, j'aimerais déposer la lettre, justement, qui avait été donnée au mois de juin, puisque c'est d'une nouvelle personne présentement au board. Alors, je voulais savoir si je pouvais m'avancer tout de suite. Je ne sais pas si… Oui?
Vous pouvez la déposer, Michel. Écoutez, merci. Parce que je n'ai pas vu cette lettre, étant donné qu'elle date de 18 mois, je vais la lire avec intérêt. Parfait. OK, écoutez, je vais essayer de répondre à cette question-là. J'ai déjà mentionné l'importance que j'accordais au climat dans l'organisation. Pour moi, le climat, c'est primordial parce que, qu'on le veuille ou pas, on est une entreprise de service. Ça veut dire qu'on ne vend pas des produits ou on rend vraiment des services et… nos employés vont donner des services de la même qualité qu'ils considèrent qu'ils sont traités par l'employeur. Donc, pour moi, le climat, c'est excessivement important. J'en parle à chaque réunion du comité de direction. J'en parle à chaque fois que j'ai une chance de rencontrer des groupes. C'est certain qu'au cours des dernières années, il y a eu des moments difficiles dans l'organisation, puis partout dans le réseau de la santé au Québec, parce qu'on était en mode très « top-down ». Il y a présentement un vent qui souffle, je pense, pour une approche plus bottom-up, hein, plus participative, plus où on va demander aux gens du terrain d'apporter des réponses. Moi, je peux m'engager au nom de l'organisation qu'on va essayer de fonctionner comme ça le plus possible. Donc, dans ce contexte-là, moi, la volonté de participation des travailleurs, des professionnels dans les façons de faire, la révision des façons de faire, je suis bien entendu pour ça. En ce qui concerne la rétention du personnel, le roulement du personnel, écoutez, je ne connais pas les chiffres exacts pour l'APTS, puis si vous les avez, je serais heureux qu'on les partage. Toutefois, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, en termes généraux, la rétention et le turnover du personnel au CUSUM est inférieur à celui qu'il y a dans le réseau de la santé. Entre autres, pour les infirmières, c'est pas mal plus bas que ce qu'il y a ailleurs. Peut-être que pour l'APTS, c'est différent. C'est certain qu'à l'APTS, il y a eu un gros élément qui est perturbateur par rapport à vos membres. C'est bien entendu tout ce qui est OptiLab, parce que cet exercice de fusion-là des laboratoires a amené beaucoup de changements quand même. J'en suis tout à fait conscient. Donc, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est oui, gestion un peu plus participative, importance à apporter au climat. Aussi concilier qualité de vie au travail avec qualité des services offerts à la population, c'est vraiment l'objectif qu'on devrait partager ensemble. Je veux aussi vous dire qu'il y a 3 ou 4 semaines, j'ai pris une décision importante, c'est d'apporter des changements à la direction des ressources humaines, des communications, des affaires juridiques. Si vous avez pris connaissance de l'annonce qui a été publiée pour doter ce poste-là, il est clairement indiqué qu'on veut faire un virage dans la gestion des ressources humaines. Parce que les ressources humaines, à mon avis, ce sera le plus grand enjeu du réseau de la santé au cours des prochaines années. À l'heure actuelle, on est à 5 % de chômage au Québec. On n'a jamais vu si peu de chômage. Et les gens ont le choix des emplois. Donc, il faut vraiment qu'on se distingue comme employeur, que ce soit un employeur de choix, qu'on favorise l'équilibre travail-famille, la qualité des services et la qualité de vie au travail. Donc, c'est l'engagement que je vous transmets, puis qu'on va essayer de traduire en gestes précis. Pour moi, les syndicats sont des... c'est un groupe interne à l'organisation, c'est un partenaire de l'organisation. Je ne me vois pas en opposition avec les syndicats, puis je pense que si vous parlez aux gens avec qui j'ai travaillé dans ma vie comme cadre depuis 20 ans, je n'ai jamais été en mode d'opposition, toujours en mode de collaboration et de travail conjoint. Bien entendu, on ne peut pas s'entendre sur tout. Alors, on peut s'entendre qu'on ne s'entendra pas toujours, mais on va essayer de s'entendre le plus souvent possible, surtout quand ça touche la qualité du service à la clientèle puis la qualité de vie au travail de vos membres. C'est ce que j'aurais à répondre à votre question, Mme Étienne, qui est une grande question bien large. Puis j'ai peur que ma réponse soit un peu générale, mais en même temps, c'est dans les mois qui vont venir, les années qui vont venir, qu'on va pouvoir voir jusqu'à quel point on va être capable de traduire ça en action, les intentions que je vous transmets ce soir. Voilà.
Je voudrais vous remercier de votre engagement, de l'écoute. C'est ça. Donc, je vous remercie. J'avais une deuxième question.
Oui, allez-y.
OK. Aujourd'hui, nous aimerions vous partager nos inquiétudes face à la survie des professionnels et des techniciens à la Chine, alors qu'ils semblent être orientés pour mieux être déplacés sur d'autres sites. On a constaté ça dans nos tournées. Les gens nous ont parlé. Ils ont l'impression que les gens sont seulement de passage à la Chine pour mieux, après ça, nourrir les grands centres qui semblent être ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, maintenant que des rénovations auront lieu à l'hôpital La Chine, comment comptez-vous rendre le site La Chine attractif aux professionnels ou aux techniciens de la santé afin de favoriser la rétention des personnels? Merci. Okay.
La Chine, c'est un cas unique dans le réseau québécois, hein, parce que c'est un hôpital communautaire qui ne fait pas partie d'un CIUS ou d'un CIS, donc d'une beaucoup plus grande organisation. Puis en plus, c'est un hôpital communautaire à l'intérieur d'un établissement qui est essentiellement spécialisé. C'est donc dire qu'il n'y a pas les possibilités de bouger autant qu'on l'aurait dans un grand CIUS ou un grand CIS où il y a plusieurs centres hospitaliers communautaires de la même nature. Donc, c'est l'histoire qui a voulu ça, là, puis il y a des raisons historiques à ça, puis culturelles à ça. Pourquoi est-ce que la Chine est avec le CUSUM? Je vous avoue franchement, quand je me suis présenté à l'entrevue de sélection pour le poste de PDG, j'avais fait ma tête sur la Chine. À mon avis, ça devait retourner à l'intérieur d'un CIUS. Ça n'avait pas sa place à l'intérieur d'une organisation comme la nôtre. Mais par contre, quand j'ai visité l'hôpital de la Chine, je me suis rendu compte des liens qu'il y avait entre l'hôpital de la Chine et un rôle à l'intérieur du CUSUM. J'ai vu des médecins qui travaillent dans les deux centres, du personnel qui travaille dans les deux centres, dans différentes installations, dont celle de la Chine. Puis il y a un membre du personnel de la Chine qui m'a beaucoup touché. Ma première visite, qui est venu me voir, puis il dit « Écoutez, je voudrais vous dire qu'on veut rester avec le CUSUM parce que le CUSUM nous a sauvés. » Alors, c'est quelque chose que tu n'entends pas souvent comme nouveau directeur général, et ça m'a touché. Et puis je me suis dit « Il y a quelque chose là ». Donc, j'ai essayé d'aller à la Chine à quelques reprises depuis que j'ai été nommé. J'étais encore là il y a quelques semaines. J'étais allé rencontrer le CMDP. Et pour discuter avec eux. Puis clairement, c'est un établissement qui va gagner à être rénové. Vous savez, il y a 90 millions qui ont été annoncés, puis c'est assez avancé, le projet devrait se réaliser. Parce que les locaux là-bas, si je fais exception du CHSLD, Camille Lefebvre, qui est quand même assez bien, les locaux, ça fait dur, honnêtement. La salle d'urgence n'est pas adéquate. Je dirais que la salle d'urgence est une des trois pires à Montréal, avec celle de Fleury puis celle du Montreal General. Ça a vraiment besoin d'être rénové. Les unités de soins ont besoin d'être rénovées. Le bloc, on a besoin de donner un petit touch-up. Donc, c'est un milieu qui va gagner beaucoup à être rénové. Le problème qu'on va toujours avoir, c'est l'absence de mobilité relative par rapport à des gens qui travailleraient, par exemple, au CIUS du Centre-Sud ou au CIUS de l'Ouest ou au CIUS du Nord de Montréal, où il y a plusieurs installations hospitalières. Puis aussi, en plus, on peut aller travailler en première ligne pour d'autres membres de l'APTS. Par exemple, si on prend les professionnels psychosociaux, il y a beaucoup de travail à en faire en première ligne, pas seulement à l'hôpital, donc ils ont plus de mobilité professionnelle. Donc ça va être notre défi. Par contre, la Chine, c'est un petit milieu qui est assez convivial, où il y a un esprit de corps, c'est du moins ce que je décode. Fait qu'on va essayer de miser là-dessus, rénover l'hôpital, les rassurer sur leur mission qui est communautaire, qui va demeurer, comme je l'ai fait il y a quelques semaines. Puis en espérant qu'on va rendre le milieu assez attractif pour garder nos professionnels. Mais on a des enjeux. Ça vous va? J'ai des questions de Mme Lisa Rosetti.
Elle vous a demandé de lire la question, elle a dû partir plus tôt.
Parfait. Alors, what you want me to read the question, Gilda? Or yeah, I'll read. Why don't you get this sheet and read the questions?
What plan does the MUHC have to address issues of accessibility at the MGH in the redevelopment project? And are these issues being addressed at Lachine as well?
Yeah.
Again, accessibility. And how will users be involved in the planning regarding accessibility?
Okay. I don't know about the MGH. It's only beginning. I think normally we would implicate users and patients and families. I know that for Lachine, I think there was a patient or patient representative on all the committees that worked to plan the changes that are being put forward for the renovations. So I think we should be doing the same thing as the MGH. Is anyone in the upper management able to answer this question? Quelqu'un a-t-il des précisions? Patricia, français ou anglais, comme vous le voulez.
Juste pour mentionner que effectivement nos structures étaient à Lachine, que dans l'ensemble des projets ou dans tous les ateliers, on avait des patients partenaires et des comités d'usagers. Pour l'Hôpital général de Montréal, l'intention est de, dès qu'on aura terminé, là où on va définir la structure de consultation, qu'il y aura effectivement la même opportunité pour les comités des usagers et les patients d'y participer.
C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose auquel je tiens, donc je vous remercie de le prévoir déjà. C'est certain qu'au Montreal General, il faut définir le plan clinique avant, hein, avant d'entrer dans la planification des rénovations puis de la construction. Donc, mais je suis heureux d'entendre qu'à Lachine, ça a été fait comme ça. Je pense que c'était une démarche lean qui impliquait plusieurs groupes de travail où il y avait toujours au moins un patient ou un représentant de patient. Donc, j'estime qu'on devrait faire la même chose au General. Voilà. We also have a question from Monsieur Michael. I'm sorry if I don't pronounce the name well. Is it Monsieur Sichon? Is that the right pronunciation?
Well, I have a story on that, because when I was in gym class at 12 years old,
yeah,
my gym teacher being Polish, everyone would call me Sichon. And he says, why you call him Sichon? His name Chichoin. And then all the eyes turned to me and... Yeah, so I'll stick with Sichon, but deep down inside, I'm Chihuin, so there we go.
Sorry about that.
No, that's okay. The question is about multimedia. We have a department called multimedia, which is a cost recovery department, and wanting to know what will happen in the future with this department. Now, I'm the medical photographer. As of 1 year, starting tomorrow, is my anniversary. So I have a birthday wish to see more patients and to take more photographs. So that's where we're coming from. It's not really a question, but to raise the issue that we have a department that's cost recovery, and we're struggling, because with us, it's always statistics, and free always gets chosen. So good enough, free, it tends to go that way. A couple of the main challenges that I'm facing as a medical photographer is, one, I'm covering the VIC as well. There is no medical photographer, there is no studio for the Royal Victoria Hospital. There is one for the children's, but they can't cross, so that's the situation there. So anyone who needs approval for bariatric surgery or any kind of surgery for their DG, they'll go to the Royal Vic, have their appointment, and then come back to the general to have their pictures taken. So that's one of the issues. Okay. So patients have voiced that to me, and I'm voicing that here today. Another big challenge that we face is basically departments have taken on to doing the photos themselves. So that's a huge one. So we've got departments that just will do the photos. And thirdly, of course, is the cell phones and how that is working into our culture. I mean, technology is evolving, that's for sure. And, you know, people are using what is easy. But that also raises the question of confidentiality, access to the images, and all that sort of thing. And consent, of course. So I'm here today just to say, hello, multimedia department does exist. We can make you look good. Gilbert, my colleague here, he set this up for us today. So we came up with a new slogan. And the slogan was, and I'm not taking credit for this, it's Daniel O'Leary, okay? He says, audiovisual, the department you can't see or hear. So, which is ironic, but it is true. So right now, I just want to say hello, multimedia. We do exist. I have two pamphlets. Budget didn't allow us to print more. So basically, we want to get the word out there that we exist and that we can make you all look good. Just two. Someone could arm wrestle for them.
Okay, so your question was very precise. What are future plans for? What are the NUHC's future plans to promote the multimedia department and medical photography? To be frank with you, I don't know, because it's the first time this preoccupation was brought to me, and I've been here now almost 8 months. May I ask from what direction you? Who's raising? Oh, Dr. Khalil. So under education. Okay, good. I'm happy I found your boss.
Nice to meet you. Okay. So my name is Hélène Khalil. I'm the director of education at the MUHC. So I actually wasn't aware of the question ahead of time, but there are plans to integrate your role in the education mission of the MUHC. I've already started working closely with some of your colleagues, actually, in terms of upgrading the technology to bring in new ways, including artificial intelligence, yes, but augmented reality and virtual reality and involving you in that. So we already have purchased some new equipment, which we hope will go in that direction. And I'm sorry, I forgot your first question. Okay, well, I think from my perspective, that's where I see a big development potential. To answer your question about cell phones, this is a really big emerging problem, but la consigne pour le staff médical, c'est qu'on n'utilise pas les téléphones cellulaires. We're not allowed to do that, even with the consent of the parents. We're not allowed to house any patient information on our personal telephones. So, if that answers your question.
So, we're not allowed to use cell phones to make pictures?
Of patients, no. Or of their information.
I think many people do it all over the place, though. Eh?
Yeah, I think this is a message that will need to be propagated a little bit more.
And I
officially.
Think the text messaging of pictures is used also in many hospitals. It was used where I used to work before, and I'm sure it is used here as well. So maybe we have to send a clear message on this. Okay.
Thank you.
So had you met your boss before?
No?
Okay, it's a good start.
The board is now a matching service.
Okay.
Matching employees to their bosses.
Dr. Khalil is a direct report of mine. So you're not too far from the top of the organization. Okay? So you just have to go on discussing this with Dr. Khalil. Okay? I understand, and to be frank, the gentleman told me before the meeting that he was just trying to open the question and get some answers. He didn't expect precise answers tonight. Thank you very much. Voilà, Monsieur le Président. That would be it.
Thank you.
Unless there are the questions.
I think that is the full list of questions, and I thank everyone for their staying right to the end with us. And we look forward to seeing you in the new year and wish you happy holidays between now and then. And thank you, Dr. Feller, for a good presentation and a great update, and for the excellent quality of the presentations
thank
by those that
are
here.
Support.
Great. We're officially adjourned. Thank you.